sur l'actualité avec vous, Claire Sergent, bonjour.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
La réunion s'annonce houleuse, les ministres européens de l'énergie ont rendez-vous dans les prochaines heures à Bruxelles.
Ah oui, la Commission veut réduire de 15% la consommation de gaz partout en Europe. La France a d'ores et déjà dit qu'elle s'y opposait et elle n'est pas la seule. L'Espagne et le Portugal ont aussi signalé leur refus. Raphaël Couder, la France ne veut pas d'un objectif uniforme pour tous les États membres.
Oui, alors Bruxelles demande aux États membres de faire tout leur possible pour réduire la consommation de gaz entre le mois prochain et mars 2023. Objectif, économiser 45 milliards de mètres cubes de gaz, soit, vous le voyez, 15% de consommation de gaz en moins dans chaque État. Alors, la France est d'accord sur ce principe d'une réduction coordonnée de la consommation, mais il faut tenir compte des situations particulières de chaque État, explique-t-on dans l'entourage de la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher. En clair, la France soutient une approche solidaire, mais réaliste. Elle ne veut pas d'objectif uniforme car la France est beaucoup moins dépendante du gaz russe que certains de ses voisins comme l'Allemagne. Et si le pays réduit sa consommation et qu'il dégage des volumes pouvant théoriquement servir à d'autres États, ses capacités d'exportation par gazoduc, eh bien, elles restent techniquement limitées et ses efforts de sobriété n'auront pas d'effet sur sa capacité à aider ses voisins. La ministre va donc plaider aujourd'hui pour un régime à la carte avec un objectif donc plus faible pour la France.
La France qui souhaite par ailleurs revoir les conditions de déclenchement de ce mécanisme d'alerte.
Oui, les ministres vont en effet aborder aujourd'hui les conditions dans lesquelles cet objectif de réduction va s'appliquer de façon contraignante ou non. Dans la première version du texte, Bruxelles proposait de déclencher ce mécanisme en cas de risque grave de pénurie à la demande de 3 États membres. Mais face à toutes ces réticences, notamment à la demande de la France, Bruxelles a revu sa copie. Une nouvelle version du texte qui va être présentée aux ministres aujourd'hui redonne un peu de pouvoir aux États membres. Ils devront être 5 et non plus 3 pour déclencher ce mécanisme d'urgence et c'est le Conseil européen et non plus la Commission qui prendrait la main sur cette décision.
Merci beaucoup Raphaël Couder, on reviendra sur ce dossier de l'énergie et sur le manque de solidarité entre les pays de l'Union européenne à 7h15 avec Nicolas Goldberg, il est spécialiste de l'énergie chez Columbus Consulting.
En France, les discussions s'enlisent à l'Assemblée nationale. La majorité espérait boucler dans la nuit la première lecture du projet de finances rectificative, mais il reste encore plus de 230 amendements au programme, le texte qui doit servir à financer les mesures en faveur du pouvoir d'achat. Reprise des travaux cet après-midi pour les députés.
La députée LFI Charlotte Leduc sera avec nous tout à l'heure à 7h45. Elle nous expliquera pourquoi le texte n'a toujours pas été voté à l'Assemblée.
La Chine qui vit un enfer caniculaire consomme toujours plus de charbon. Plusieurs villes sont en alerte rouge depuis la mi-juillet en raison de la vague de chaleur qui frappe le pays. Des dizaines de millions d'habitants ont été appelés à rester chez eux. Conséquence, la consommation d'électricité atteint un pic, les climatisateurs tournent à plein régime et la consommation de charbon explose. La Chine s'est pourtant engagée à réduire ses émissions carbone. À Pékin, le correspondant de BFM Business, Sébastien Lebelzik.
Oui, c'est le double discours de Pékin qui d'un côté s'engage à décarboner son économie d'ici 2060 et de l'autre consomme toujours plus de charbon. L'objectif fixé par les autorités est d'augmenter la capacité de production de charbon de 300 millions de tonnes cette année. Greenpeace dénonce l'ouverture de nouvelles mines et de nouvelles centrales, hein, toujours aussi polluantes. Alors c'est vrai que la canicule frappe particulièrement la Chine cette année et dans ce contexte, eh bien, les climatiseurs tournent à plein régime. On en compte plus d'un milliard en Chine. C'est la moitié des climatiseurs installés dans le monde, selon l'Agence internationale de l'énergie, qui prévoit 3 fois plus de climatiseurs en Chine d'ici 2050. Des appareils qui consomment énormément d'électricité et qui réchauffent également l'air extérieur. Mais il y a urgence pour agir. La désertification gagne les grandes plaines chinoises du centre entre Pékin et Shanghai. 400 millions d'habitants menacés de devoir quitter la zone en raison de températures de plus en plus élevées et d'une humidité invivable au-delà de 6 heures passées dehors, selon une étude de l'université américaine du MIT qui prévoit qu'en 2070, plus personne en Chine ne pourra vivre dans cette zone.
Dans l'actualité entreprise, une nouvelle acquisition pour Lactalis.
Le géant français des produits laitiers veut mettre la main sur l'italien Ambrosi. Ambrosi, spécialiste italien du fromage, basé en Lombardie, il apporterait à Lactalis des savoir-faire qui manquent à son portefeuille de marque. Pauline Tadevin.
Ambrosi est notamment connu pour son parmesan et son grana padano, deux appellations d'origine protégée qui manquaient au plateau de fromage de Lactalis. Le groupe français profite du retrait du Suisse EMI qui détenait 25% d'Ambrosi pour le compléter. On ne connaît pas le montant de la transaction qui reste soumise à l'autorité de la concurrence. Ce que l'on sait, c'est qu'Ambrosi réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 400 millions d'euros et compte 430 collaborateurs dans le monde, un siège en Italie et 4 sites de production. C'est une société familiale, ce qui facilite les discussions, nous explique un proche du patron de Lactalis. Après les gros rachats de l'Herdamer ou des fromages du géant américain Kraft Foods l'an passé, il avait expliqué dans la presse que son groupe avait vocation à faire un peu moins d'acquisitions et à se renforcer plutôt là où il était déjà présent. Il poursuit quand même sa croissance externe à un rythme relativement soutenu, avec rien que ces 4 derniers mois, avant Ambrosi, les annonces de rachat de fabricants de yaourts en Allemagne et en Australie.
Bruxelles donne son feu vert pour le vaccin contre la variole du singe.
Et il n'y a qu'un seul et unique laboratoire en Europe qui développe ce vaccin. C'est un laboratoire danois, Bavarian Nordic, qui a vu ses commandes s'envoler. Hélène Cornet.
Depuis l'apparition de la variole du singe, Bavarian Nordic a d'ores et déjà relevé 4 fois ses prévisions financières. Le laboratoire danois table désormais sur plus de 320 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, 20% de plus qu'attendu. Il développe depuis 20 ans des vaccins contre la rage, Ebola, l'encéphalite atique et plus récemment le Covid-19. Mais c'est bien celui contre la variole qui tire la croissance du groupe. Il est le seul fabricant à posséder un vaccin homologué contre la variole du singe. Pour répondre à la hausse de la demande, Bavarian Nordic va augmenter ses capacités de production. Il ne possède qu'une seule usine au nord de Copenhague qui produit actuellement 30 millions de doses par an. Mais la biotech vient de passer un contrat avec un sous-traitant aux États-Unis pour mettre en flacon le vaccin sur place. La BARDA, l'autorité d'urgence sanitaire américaine, a en effet commandé pour 7 millions de doses au total. De son côté, l'Union européenne en a acheté 110 000 doses pour le moment. Un pays de l'Union qui n'a pas voulu se faire connaître on a commandé 1,5 million de son côté.
Il n'y aura pas d'impôt JO, affirme le président de la République dans les colonnes de l'Équipe. Et pour Emmanuel Macron, les Jeux doivent financer les Jeux. Il l'assure, il y a des solutions pour y répondre. Et il n'y a pas de dérive de nos coûts. Le budget de 4 milliards prévu pour les Jeux est quasi intégralement financé par des recettes privées.
Et on y reviendra longuement ce matin. Reportage de Léo Dumas dans quelques minutes sur les difficultés de recrutement en amont de ces Jeux Olympiques. Et puis à 8h15, le directeur de cabinet du président du comité d'organisation des JO de Paris, Michael Aloiseau, sera mon invité.